Bonne année 2026 à toutes et tous. Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. Pour commencer l'année, la RFC publie un dossier sur les titres de participation et de placement. On pourrait croire que c'est un sujet purement technique, un peu aride.
Un peu, oui.
Mais en réalité, on va voir que derrière cette distinction se cache une question presque philosophique qui peut coûter des millions d'euros, celle de l'intention. C'est un enjeu majeur pour les directions financières.
Absolument. On est au croisement de la stratégie, de la gouvernance et bien sûr de la fiscalité.
C'est ça. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ces étiquettes comptables. On parlera d'évaluation, des dernières décisions de justice et même du changement total de perspective avec les normes IFRS. Alors, pour commencer par la base, j'ai toujours eu l'impression que la différence entre un titre de participation et un titre de placement, c'était surtout une histoire de pourcentage.
Ah, la fameuse règle des 10%.
Voilà. Si on détient plus de 10%, c'est de la participation, sinon c'est du placement. C'est plus compliqué que ça, j'imagine. Hein.
C'est beaucoup plus subtil. Ce seuil de 10%, ce n'est qu'une présomption simple.
D'accord.
On peut tout à fait la renverser. Le véritable critère, le cœur du sujet, c'est l'intention de la société qui achète et l'utilité qu'elle projette.
L'utilité?
Oui. Un titre de participation est défini par une possession que l'on veut durable, car elle est jugée utile à l'activité. L'objectif, c'est de créer un lien, d'exercer une influence, de préparer un contrôle.
Et le titre de placement, à l'inverse?
Lui, c'est une logique purement financière. On l'appelle aussi VMP, valeur mobilière de placement. L'idée est de réaliser un gain à brève échéance, sans aucune volonté de s'immiscer dans la gestion.
C'est fascinant parce que tout repose sur l'intention au moment de l'acquisition. C'est immatériel. Mais comment est-ce qu'on prouve une intention?
C'est toute la question. La preuve doit être documentée et cohérente. On va regarder les procès-verbaux des conseils d'administration, les notes préparatoires, les plans stratégiques.
On cherche des traces écrites de cette utilité stratégique.
Exactement. Y a-t-il des synergies industrielles mentionnées? Une volonté d'intégrer un fournisseur? Si la seule motivation, c'est de profiter d'une sous-valorisation pour revendre dans 6 mois, il sera très difficile de soutenir la qualification de titre de participation.
Donc cette intention dicte la classification qui, elle, a des conséquences directes sur l'évaluation. Quelles sont les grandes approches pour valoriser cette fameuse valeur d'utilité?
Il y a 3 grandes familles de méthodes. Souvent, on les combine. D'abord, l'approche patrimoniale.
L'actif net.
Voilà. On regarde la valeur des actifs de la filiale, moins ses dettes. C'est très pertinent pour des sociétés foncières ou des holdings.
Logique. Et ensuite?
Ensuite, il y a l'approche par la rentabilité, qui est la plus répandue. La méthode reine ici, c'est celle des flux de trésorerie actualisés, les DCF.
D'accord.
On prévoit les flux de trésorerie futurs de la filiale et on les ramène à leur valeur d'aujourd'hui. C'est très puissant, mais aussi très sensible aux hypothèses retenues.
Et j'imagine qu'avec le contexte un peu chahuté de ce début 2026, faire des prévisions fiables pour un DCF, ça devient un exercice de haute voltige.
C'est exactement ça. Le moindre point de variation sur le taux de croissance ou le taux d'actualisation peut tout changer.
La transparence en annexe sur les hypothèses est donc primordiale.
Elle est cruciale. Et c'est pour ça qu'on complète souvent avec la troisième approche, valuation, les comparables. On regarde à quel prix se vendent des entreprises similaires en bourse ou lors de transactions récentes.
Cet enjeu de l'intention et de la documentation prend tout son sens quand on regarde la jurisprudence. Le dossier de la RFC met en lumière une affaire qui a fait beaucoup de bruit, l'affaire Vivendi.
Ah oui, un cas d'école.
De quoi s'agit-il exactement?
Pour simplifier, Vivendi détenait une participation dans NBC Universel. Initialement, ces titres étaient classés en titres de participation.
D'accord.
Quelques années plus tard, la stratégie évolue et Vivendi reclasse ses titres en titres immobilisés de l'activité de portefeuille, les TAP. Ce qui lui a permis de constater une dépréciation très importante et de la déduire fiscalement.
Et c'est là que l'administration fiscale est intervenue, j'imagine.
Précisément. Mais, et c'est là que c'est subtil, l'administration n'a pas contesté le reclassement. Elle a contesté la qualification initiale.
Ah, d'accord.
Elle a soutenu que dès l'origine, l'intention de Vivendi n'était pas de conserver durablement ses titres. Donc, il n'aurait jamais dû être qualifié de titre de participation.
Le Conseil d'État a suivi ce raisonnement et a parlé d'erreur comptable délibérée. Les mots sont forts. Qu'est-ce que ça implique?
C'est une qualification lourde de conséquences. Une erreur délibérée, ça veut dire qu'elle ne peut pas être corrigée rétroactivement. Elle est intangible.
Et comment le juge a-t-il pu affirmer qu'elle était délibérée ?
C'est là que ça devient intéressant. Le juge a estimé que, compte tenu de son niveau d'expertise, de sa taille, Vivendi ne pouvait pas ignorer que l'intention de céder à terme était incompatible avec la qualification de participation.
En somme, vous êtes des professionnels, vous saviez ce que vous faisiez.
C'est exactement l'idée. L'erreur n'était donc pas une simple maladresse. Résultat, la qualification initiale erronée a été figée et la dépréciation a été fiscalement réintégrée.
C'est un avertissement sans frais pour toutes les directions financières. La documentation de l'intention stratégique, ce n'est pas une option, c'est une assurance.
Tout à fait. L'intention réelle prime sur la qualification affichée dans les comptes.
Alors, sortons de ce cas un peu extrême pour revenir à des questions plus pratiques. Les sociétés holding, par exemple, qui accumulent beaucoup de trésorerie.
Oui, le dossier explore justement les placements qu'elles réalisent, avec une double vision intéressante, celle du conseiller financier et celle de l'expert comptable.
Prenons un exemple courant, le contrat de capitalisation. Ça paraît simple, mais apparemment c'est un piège.
C'est une véritable chausse-trappe, oui, notamment sur le plan fiscal. Selon les supports d'investissement dans le contrat, fonds en euros ou unités de compte, le traitement change.
D'accord.
Et fiscalement, la loi peut imposer de reconnaître un rendement forfaitaire minimum chaque année, calculé sur le taux moyen des emprunts d'État, le TME.
Même si le contrat n'a rien versé.
Même s'il n'a rien distribué. Cela oblige à un suivi extra-comptable assez lourd, et on se retrouve avec un revenu fiscal qui est déconnecté du rendement économique réel.
On voit bien la complexité. Et pour des placements plus sophistiqués comme le private equity?
Alors là, la vigilance monte encore d'un cran. Comptablement, il faut bien distinguer les remboursements d'apport et les dividendes. Mais c'est surtout fiscalement que l'enjeu est majeur.
C'est-à-dire?
Il existe des fonds dits fiscaux qui permettent une exonération des plus-values à long terme et des fonds non fiscaux où tout est taxé. Si on se trompe de fonds ou de traitement, l'impact à la sortie est colossal.
La collaboration entre gestionnaire de patrimoine et expert comptable est donc essentielle.
Elle est cruciale. L'éligibilité du fonds au régime du long terme doit être validée et documentée dès la souscription. Attendre la sortie pour se poser la question, c'est prendre un risque énorme.
Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'intention, d'utilité, des notions très ancrées dans notre référentiel français. Mais pour les grands groupes qui appliquent les normes IFRS,
alors là,
tout ce raisonnement tient encore la route ?
Absolument pas. On change complètement de paradigme. En IFRS, les concepts de titre de participation ou de placement n'existent pas.
Ah bon ?
Non. La norme IFRS 9 ignore l'intention stratégique. Elle repose sur une analyse bien plus mécanique en deux tests.
Deux tests ? Lesquels ?
Le premier est le test SPPI, Solely Payments of Principal and Interest. La norme demande, les flux de trésorerie du titre sont-ils uniquement constitués du principal et des intérêts ?
Une obligation simple, par exemple, ça passe.
Ça passe au la main. Mais une action, par exemple ?
Une action échoue. Elle ne verse pas d'intérêt.
Elle échoue systématiquement. Donc pour une action, l'analyse IFRS 9 s'arrête là. Elle sera obligatoirement évaluée à sa juste valeur et les variations de valeur impacteront directement le compte de résultat.
C'est une différence énorme. Et pour les instruments qui passent ce premier test SPPI ?
On passe au second test, celui du business model, le modèle de gestion. IFRS 9 demande, quel est votre objectif ? Le détenir pour encaisser les flux ?
Ou bien le vendre ?
Ou les deux. Encaisser les flux et vendre si une opportunité se présente. Et selon la réponse, on aura un traitement comptable différent. Coût amorti, juste valeur par OCI ou juste valeur par résultat.
Pour être sûr de bien comprendre, prenons un exemple. Une entreprise française achète 15% d'une start-up. En référentiel français, avec une intention stratégique, ce serait un titre de participation évalué au coût historique.
C'est ça.
Et en IFRS ?
En IFRS, on se fiche de l'intention. On regarde l'instrument. C'est une action ? Test SPPI. Elle échoue. Fin de l'analyse.
Donc ?
Elle est classée en juste valeur par résultat. À chaque clôture, l'entreprise doit réévaluer la valeur de la start-up. Si la valeur monte, elle enregistre un profit. Si elle baisse, une perte.
Ce qui introduit une volatilité considérable dans les résultats.
Exactement. Là où l'approche française au coût historique offrait de la stabilité, on mesure bien le choc des cultures comptables.
Si l'on devait résumer, ce dossier nous rappelle que derrière le mot « titre », il y a des mondes. Il y a le monde de l'intention, où la documentation est traîne, l'affaire Vivendi l'a rappelé.
Brutalement, oui.
Il y a le monde de la valorisation, où la rigueur des hypothèses est essentielle. Et puis, il y a ce grand écart conceptuel entre notre référentiel et les normes IFRS, qui ne parlent tout simplement pas la même langue. Pour finir, quelle serait la pensée à laisser à nos auditeurs, pour prolonger la réflexion ?
Eh bien, le dossier mentionne le durcissement que Bercy envisage sur les holdings patrimoniales jugées trop passives. La question qu'on peut se poser, c'est la suivante. La remise en cause du régime Murphy pour ces structures, au motif qu'elles manqueraient de substance économique, ne risque-t-elle pas de devenir le prochain grand terrain d'affrontement fiscal ?
Et donc de redéfinir ce qu'est une participation utile.
Exactement. Par la bande. La bataille autour de la définition de la substance et de l'intention est loin d'être terminée. Elle se déplace simplement sur de nouveaux fronts.
La Revue française de comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrançaisedecomptabilité.fr.